Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Ira-t-on en élection fédérale ce printemps en pleine pandémie? Les rumeurs à cet effet vont bon train. Justin Trudeau réclame un parlement fonctionnel, c'est tout dire. Erin O'Toole déçoit de nombreux partisans conservateurs et les partis d'opposition se montrent d'une discrétion qui risque de les desservir. Et pour finir, les sondages donnent à notre Père Noël national un autre mandat minoritaire en revanche. Pierre Norris, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et chroniqueur, nous donne le détail de tout cela. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors, on ira peut-être voter ce printemps?
Oui, peut-être bien. C'est que il faut savoir dans un premier temps que les gouvernements minoritaires au Canada, ils durent en moyenne un an et demi en général. Donc ça voudrait dire déjà que le gouvernement Trudeau qui a été élu le 21 octobre 2019, ce printemps-là, il approcherait de la fin de sa durée de vie utile si on se fie à la moyenne. Mais au-delà de ça, là, c'est pas un simple exercice de probabilité électorale. Il y a bel et bien des rumeurs d'élections fédérales en ce moment. Les députés du Parti conservateur, ils ralentissent de plus en plus le processus d'adoption de différents projets de loi, ou en tout cas, c'est du moins ce dont ils sont accusés par le gouvernement libéral. Ouais. Et pas plus tard qu'hier, Justin Trudeau a dit en conférence de presse qu'il refusait d'écarter la possibilité d'élection.
Pardonnez-moi, mais si le Parti conservateur ralentit l'adoption de projets de loi du gouvernement, parce que les conservateurs veulent également aller en élection, s'ils le font, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête.
C'est pas tout à fait clair. En fait, on pourra peut-être y revenir plus en détail quant aux intentions réelles des uns et des autres, mais en ce moment, les quatre grands partis prétendent ne pas vouloir aller en élection, mais chacun se tient prêt et peut-être que les conservateurs espèrent, inverser la tendance dans les sondages et essayer de pousser le gouvernement dans ses derniers retranchements pour le forcer à déclencher une élection puis lui faire porter l'odieux du déclenchement en pleine pandémie.
Alors
possibilité.
On va explorer toutes les raisons qui militent en faveur de ce déclenchement d'élection. Et puis, on va un peu parler des partis qui s'agitent. Le Parti vert, vous allez en parler ou pas? Ou s'il est trop petit?
On peut en parler. En fait, si vous voulez, je peux le dire dès maintenant. Selon les sondages, le Parti vert semble à peu près au même niveau qu'aux dernières élections et tout porte à croire qu'il va conserver probablement possiblement les trois sièges qu'il a obtenu la dernière fois, du moins selon les projections de sièges qui sont faites à partir des sondages. C'est du moins ce qu'on peut voir.
Je me rappelle les dernières élections, le Parti vert avait augmenté sa représentation de 200%. C'est passé de une députée à trois députés, c'est du 200% d'augmentation. C'est quand même pas mal pour un parti. Dites-moi une chose. Pierre Norris, on est en pleine pandémie, ça va être assez difficile de façon logistique d'organiser tout cela, non?
C'est sûr que ça peut représenter un défi, ça c'est certain, sur le plan technique, sur le plan logistique. Et ça peut laisser planer un doute mais un peu plus de mystère, disons, sur l'issue de l'élection. Il y a toujours, on sait jamais dans quel sens le vent va tourner pendant une campagne électorale, mais du fait qu'une élection en temps de pandémie serait encore plus particulière, ça vient ajouter un peu au suspense. Mais en effet, ce serait assez compliqué. Le directeur général d'Élections Canada, Stéphane Perrault, avait demandé à ce qu'une loi soit votée pour donner à Élections Canada davantage de marge de manœuvre sur le plan technique afin de tenir une éventuelle élection en temps de pandémie. Mais au début du mois de mars, il y a un comité parlementaire qui a unanimement déconseillé au gouvernement de déclencher des élections. Les trois partis d'opposition, en particulier, là, ils s'inquiètent des effets néfastes que pourrait avoir le vote postal, si c'est ça le mécanisme qui est choisi pour voter. Oui. Les effets que ça pourrait avoir sur le cynisme de la population et sur la santé démocratique du Canada.
Je comprends pas les objections. Pourquoi est-ce que des élections par vote postal alimenteraient un cynisme populaire?
Bien sûr, ils ont en tête les élections présidentielles américaines de novembre dernier où on a vu avec le vote postal la contestation qui a été faite de la légitimité du vote postal. Donc,
je comprends bien.
Les trois partis d'opposition s'en inquiètent un petit peu.
Est-ce qu'il y a d'autres considérations logistiques ou pas? Ou est-ce qu'il y a d'autres explications, d'autres craintes, d'autres appréhensions?
Oui, ben les considérations logistiques sont pas les seules à peser dans la balance. On pourrait croire a priori qu'après plus d'un an, avoir leur liberté restreinte et leur vie sociale et professionnelle, disons souvent réduite aux limites de leur demeure, les citoyens pourraient être tentés de punir le gouvernement sortant. Mais on voit que l'appui aux mesures sanitaires est encore majoritaire, et d'autant plus qu'on peut aussi regarder vers ce qui s'est passé dans le reste du Canada, parce qu'il y a eu des élections dans différentes provinces canadiennes depuis le début de la pandémie. Depuis le début, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick sont tous allés en élection et ils ont vu leur gouvernement sortant être reporté au pouvoir. Et
Et
il y a
même avec des mandats majoritaires, il y en a qui partaient d'un mandat minoritaire, ils avaient quand même bien géré la pandémie, ils sont allés en élection et ils ont remporté la timbale.
En effet, et il y a présentement des élections à Terre-Neuve et le vote devrait avoir lieu le 25 mars et les sondages prédisent là aussi la réélection du gouvernement libéral sortant. Donc tous ces éléments-là jouent, je crois, en faveur de Justin Trudeau, qui en est déjà à déclarer qu'il lui faut un parlement fonctionnel pour traverser la pandémie. Ça rappelle un peu ce qu'on avait vu en 2008 lors de la crise économique, quand Jean Charest, qui était minoritaire, avait déclenché des élections en disant qu'il lui fallait les deux mains sur le volant pour traverser la crise. Ça nous rappelle un peu ça. Et donc oui, quand il parle d'un parlement fonctionnel, ce que Justin Trudeau veut dire, c'est un gouvernement libéral majoritaire. Et
Avec les deux mains sur la machine à sous.
exactement. Et donc ces circonstances-là actuelles, je crois, joueraient en sa faveur, considérant que dans toute l'histoire canadienne, d'ordinaire, lorsqu'un gouvernement fédéral minoritaire a déclenché des élections, il l'a emporté une fois sur deux. Donc c'est joué à pile ou face. Mais dans le contexte actuel, ça pourrait améliorer ses chances. Donc je crois qu'il est assez certain que Trudeau est tenté d'y aller en élection.
Alors, Pierre-Norris, vous nous parliez de possibilité d'élection fédérale ce printemps. Pardonnez-moi, que disent les sondages?
Oui, ben les sondages, ils donnent une avance aux libéraux qui serait autour de 35% présentement, contre environ 30% pour les conservateurs. C'est une baisse pour les conservateurs si on compare aux résultats des dernières élections où ils avaient fait plus que les libéraux en termes de suffrage populaire, mais un peu moins en termes de sièges. Et les projections de sièges du site Québec 125 avec de tels sondages donnent cependant 163 circonscriptions aux libéraux, soit 7 de moins que la majorité parlementaire, c'est-à-dire qu'il y aurait encore, si les élections se tenaient maintenant, il y aurait probablement un gouvernement libéral minoritaire, si le vote avait lieu aujourd'hui. Mais évidemment, bon, c'est très hasardeux de se lancer dans des prédictions comme celle-là, alors qu'on n'est pas du tout en élection encore. Puis le vent peut tourner en campagne, là. On l'a vu souvent dans l'histoire des cas de renversement total de situation. Il reste
On
que
l'a
ça
vu,
donne quand
hein?
même de... Oui, allez-y.
On a vu aux élections fédérales de 2015, Justin Trudeau traînait de la patte jusqu'à 2-3 semaines avant les élections et sans qu'on sache trop. Moi, en tout cas, je ne sais toujours pas pourquoi, mais pouf! La tortue a rattrapé le lièvre
Ouais,
et a
tout à fait.
gagné.
Tout à fait. Non, vous avez raison. Donc ça, c'est un autre exemple qui montre qu'il faut faire attention avec les sondages, mais malgré tout, ça donne quand même un portrait de la situation actuelle
Alors,
des
Pierre.
différents partis.
Dites-moi, Pierre Norris, alors que disent les partis d'opposition? On a déjà parlé des Verts, là, l'affaire est réglée pour eux, en tout cas pour l'instant. Les trois autres grands partis conservateurs, NPD et Bloc, est-ce qu'ils veulent aller en élection ou pas?
Ça varie un petit peu. En fait, si on regarde du côté des deux tiers partis, parce que notre système favorise le bipartisme, on a l'alternance entre les libéraux et les conservateurs, et il y a des partis un peu plus petits, qui sont néanmoins notables. Donc, on parle ici du NPD et du Bloc québécois. Évidemment, autant le gouvernement que les partis d'opposition, ils répètent qu'ils veulent pas d'élections, ils veulent pas, ils veulent chacun faire porter l'odieux d'un déclenchement à leurs rivaux. Mais tous se préparent quand même et ils montent leur équipe de candidats. Le Bloc fait déjà des investitures et les libéraux, on a vu passer il y a quelques semaines une campagne publicitaire appelant les gens à se porter candidats pour le parti en cas d'élection. Ils commencent à recruter leur équipe. Donc, on sent que ça se prépare, mais la situation dans les tiers partis est quand même assez particulière. Je pense que c'est eux qui ont très certainement le moins à gagner d'une élection en temps de crise. Parce qu'on l'a vu, ben, ça tend à accoucher de gouvernements forts. Si on regarde le NPD, par exemple, de Jagmeet Singh, qui a eu en 2019 son pire score depuis les élections de 2004, bien, les sondages, ils montrent, oui, une remontée un petit peu du NPD, mais cette remontée-là, elle reste dans la marge d'erreur. Et Jagmeet Singh, ben, c'est certain qu'après, à cette élection-ci, il jouerait peut-être sa carrière après la défaite de la dernière fois. Et ben, c'est sûr que lui, il en appelle à ne pas tenir d'élection tant et aussi longtemps que la pandémie n'est pas terminée. Et
Évidemment, oui.
d'autant plus que depuis leur élection, les libéraux ont gouverné pas mal à gauche en cherchant assez clairement à affaiblir le NPD pour lui prendre ses électeurs et essayer de dépasser les conservateurs très nettement. Et donc, on voit qu'en ce moment, le NPD peine à se démarquer et il n'a clairement pas intérêt, lui, à aller en élection.
On finira avec les conservateurs, mais place au Bloc québécois pour l'instant de Yves-François Blanchet.
Oui, Yves-François Blanchet et le Bloc québécois font un peu du surplace dans les sondages. Ils se maintiennent en position. On voit de temps en temps des sondages. On a vu récemment là, peut-être qu'ils étaient en première place. Finalement, ils avaient devancé les libéraux. Le sondage suivant montrait que non. Donc c'est quand même assez serré, mais ils peinent à prendre la première place vraiment. Et lors des dernières élections, le Bloc avait été devancé par les libéraux au Québec. Mais le résultat leur avait quand même paru comme une victoire morale parce que le Bloc avait pu remonter de 10 sièges qu'il avait eu en 2015 à
Effectivement,
32 députés maintenant.
oui.
Mais bon, la situation de la pandémie est assez compliquée pour le Bloc. Justin Trudeau occupe le devant de la scène depuis un an. Il fait pleuvoir l'échec de PCU. Et là, bon, le défi du Bloc en ce moment, ce serait je crois surtout de conserver tous ces sièges plus que de passer à l'offensive. Et ben, en attendant, on le voit lui aussi sortir, ben, soutenir assez souvent les projets de loi du gouvernement. Et bon, c'est assez clair que le Bloc n'est pas pressé, je crois, de voir les libéraux, le gouvernement libéral tomber.
Pierre Norris, une question qui me vient en tête. Est-ce que les élections sont à date fixe dans la loi maintenant? Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, il faut voter à date fixe, non? Au fédéral.
En effet, en principe, mais si on regarde, ben, c'est sûr que s'il y avait le gouvernement en ce moment ne pourrait tomber selon la loi qu'après à l'échéance de la législature, ou bien s'il y a un vote de confiance qui fait tomber le gouvernement. Mais bon, le Bloc et le NPD assurent déjà qu'ils vont donner leur confiance au gouvernement s'il y a un tel vote. Mais il reste que la loi sur les élections à date fixe, elle n'est pas contraignante. Et si, contrairement à ce qu'il y a au Royaume-Uni, par exemple, qui a un système parlementaire similaire au nôtre, mais qui a une loi sur les élections à date fixe un peu plus contraignante. Mais alors qu'ici, si Justin Trudeau décide un beau jour qu'il veut obtenir une majorité, mais rien ne l'empêche de demander au gouverneur général de déclencher des élections.
On n'en a pas, c'est Richard Wagner qui fait l'intérim. Est-ce que lui pourrait
En effet.
servir de... C'est lui à qui Justin Trudeau se tournerait?
Oui, vous avez raison. En temps normal, c'est au gouverneur général, mais comme en ce moment, il n'y a pas de gouverneur général, c'est le juge en chef du Canada, donc le juge en chef de la Cour suprême, c'est lui qui remplirait les fonctions du gouverneur général. Donc oui, c'est vers lui qu'il se tournerait, ce serait ma réponse.
Parenthèse, Pierre Norris, aussi musicien de formation, mais Richard Wagner, quel nom merveilleux pour un juge en chef de la Cour suprême.
En effet.
Ou on dirait au compositeur allemand, quel nom merveilleux pour un compositeur qui le prend du juge. Peu importe. Finissons, il nous reste 6 minutes. Finissons avec les conservateurs de Erin O'Toole. On a l'impression que M. O'Toole, qui suscitait beaucoup d'enthousiasme au début, le rassembleur, le père de famille, le bon gestionnaire, tout ça, l'homme fidèle, finalement, c'est peut-être pas aussi rose que ça, non?
Ouais, en effet. Ben, le Parti conservateur, c'est en ce moment c'est l'opposition officielle. En
Ouais.
principe, il devrait être préparé. C'est le rôle d'une opposition officielle, c'est d'être un gouvernement en attente.
Oui.
Mais de plus en plus, on voit des conservateurs qui sont inquiets et ben, qui montrent des signes d'impatience. Le grand journal de la droite canadienne, le National Post, publie de plus en plus d'ailleurs des articles où on voit les commentateurs, les chroniqueurs s'en inquiéter aussi. Ça reflète certainement l'état d'esprit de plusieurs personnes dans le Parti conservateur. Ben, il faut se rappeler que Erin O'Toole, en effet, il avait été élu chef du Parti conservateur au mois d'août l'an dernier en se présentant comme un vrai bleu et un
Ouais.
vrai conservateur et qui saurait rallier les diverses tendances du parti, que ce soit les conservateurs plus populistes de l'Ouest, les conservateurs sociaux, les conservateurs fiscaux du Canada de l'Est et aussi les nationalistes québécois. Faut pas oublier que O'Toole avait gagné chez les partisans
Oui, tout
conservateurs
à
au
fait, oui.
Québec.
Le
Et
problème, c'est d'unifier tous ces conservateurs qui ont des c'est comme quatre chevaux qui vont dans différentes directions, hein.
c'est ça. Et O'Toole, il prétendait incarner un équilibre entre
Voilà.
Peter MacKay, qui était jugé trop centriste, et les candidats Derek Sloan et Leslyn Lewis, qui étaient plus à droite, plus proches des conservateurs sociaux. Et donc, O'Toole prétendait incarner cet équilibre-là, nécessaire au maintien du Parti conservateur. Mais depuis, il y a plusieurs des partisans qui constatent qu'O'Toole a multiplié les virages au centre, que ce soit en matière d'environnement, en matière de finances, notamment dans son cabinet, dans ce qu'on appelle son cabinet fantôme. Il a retiré à son député Pierre Poilievre, la responsabilité des finances. Et lui,
C'est
c'était.
dommage, il était bien Poilièvre. Il me semblait qu'il avait des dents, lui.
Ben oui, il attaquait pas mal, puis c'était l'un des tenants du conservatisme fiscal. Et donc,
Exactement.
en le tassant, ben là, on voit qu'O'Toole essaie peut-être de se recentrer un petit peu. Et il a aussi, ben, faut dire, il l'a tassé, mais il lui a donné d'autres responsabilités. Mais il a complètement sorti du caucus Derek Sloan, un
Oui.
député qui associé un peu plus à la mouvance populiste de l'Ouest et aux conservateurs sociaux, parce qu'il aurait reçu du financement d'une personnalité d'extrême droite.
Oui.
Derek Sloan s'en défend. Il dit qu'il savait pas qui c'était cette personne-là. Il n'a pas fait de
Exact.
vérification, mais il a quand même été retiré du caucus. Donc,
Il y avait aussi la promesse de donner tout le pouvoir fiscal des Québécois aux Québécois eux-mêmes. Ça aussi, ça a dû lui être reproché dans d'autres endroits du Canada.
Oui, en effet, même si, bon, il y en a plusieurs alors, qui commencent à comprendre que les Tories n'auront pas le choix de faire un peu de concessions au Québec pour s'ils veulent l'emporter, mais là, il a lui-même déçu, cette fois-ci, les nationalistes eux-mêmes la semaine dernière et cette semaine, parce que après avoir appuyé le renforcement de l'autonomie fiscale du Québec, on s'en souvient peut-être, O'Toole avait, et c'était déjà, ça datait déjà de Andrew Scheer, on parlait de transférer le pouvoir de perception de l'impôt fédéral au gouvernement du Québec.
Voilà,
Le
oui.
Parti conservateur a voté la semaine dernière contre cette mesure-là en comité parlementaire à la Chambre des communes, en prétextant qu'il ne voulait pas affaiblir la fonction publique fédérale en temps de pandémie et faire perdre des emplois. Ben, ça nous montre que peut-être O'Toole, en ce moment, il essaie de ménager les syndicats de la fonction publique juste avant
Oui,
l'élection.
pardon, mais il y a tellement de chèvres et de choux à ménager chez les
Ben,
conservateurs,
c'est
ça
ça.
devient impossible en 2 minutes. Bon, il joue davantage au centre, ce qui est très canadien aussi. C'est un peu le centre de gravité du pays, c'est le centre, justement. Il est quand même, c'est comme quelqu'un en outre qui inspirait confiance.
Oui, puis il joue sur cette image-là, O'Toole.
Oui.
Depuis son élection, il multiplie les vidéos publicitaires sur Internet, qu'il présente comme un bon citoyen ordinaire, qui est fidèle à son pays, qui a servi dans l'armée, un père de
Ouais.
famille, issu de la classe moyenne, ses parents ont travaillé fort, etc. Et ça, avec sa modération politique, disons, son retour vers le centre, du moins dans le discours, ça semble pas payer jusqu'à maintenant. Il y a pas eu depuis l'élection de O'Toole à la chefferie du parti ce qu'on appelle une lune de miel avec les électeurs. Il n'y a pas eu de grande montée des conservateurs dans les sondages. Donc
Ouais.
O'Toole peine à s'imposer, même s'il essaie d'apparaître comme le grand leader modéré et rassurant.
Espérons que ce ne soit pas une lune de fiel bientôt. On va finir en 1 minute. Tout ce que vous me dites de ces trois partis d'opposition face aux perspectives d'élections fédérales ce printemps en pleine pandémie, Tout le monde est un petit peu tiède, un petit peu frileux, non?
Oui, puis c'est normal parce que dans la situation actuelle, c'est sûr qu'elle est ingrate pour l'opposition.
Oui.
C'est une pandémie, le gouvernement est à l'avant-plan et il distribue les chèques. Donc c'est sûr que ça n'aide pas les partis d'opposition. Toujours est-il, je crois que ben, en cherchant à faire très peu de vagues, les trois partis d'opposition, ben, ils essaient d'apparaître responsables puis de pas trop critiquer le gouvernement, mais en réalité, peut-être que tout ce qu'ils font, c'est laisser eux-mêmes l'espace au gouvernement.
Oui, c'est
Et
ça, oui.
peut-être qu'en ayant plus de mordants, peut-être que ça viendrait justement les aider, sans quoi, ben, tout ce qu'ils risquent de faire, c'est de maintenir la dynastie Trudeau, au pouvoir pour les 4 prochaines années.
Ouh là là, Pierre Norris, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et chroniqueur. Merci beaucoup pour ce topo sur les élections probables ou possibles, en tout cas, élections fédérales, ce printemps en pleine pandémie. À dans 2 semaines.
Oui, à dans 2 semaines. Merci.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Sainte-Louise de Marillac. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous donne rendez-vous donc demain. Merci beaucoup.